18h au studio Kalangou, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 6 novembre 2019. Nafissa Adam Sirfou à la présentation. Les titres de ce journal: dans la commune de Dogondouchi, quelques milliers d'élèves ne sont toujours pas à l'école. Le chef du canton de l'Arewa demande au chef des villages de mener un plaidoyer auprès des parents pour renvoyer les enfants à l'école. 15 jeunes étudiantes et députés juniors bénéficient d'une formation sur le leadership à Maradi, une initiative du programme Girls First Found qui permettra à ces jeunes filles de lutter contre le mariage des enfants. En partie magazine de ce journal, le président de l'Association des jeunes entrepreneurs du Niger revient sur les efforts qui ont fait avancer le Niger de 11 points dans le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale publié le mois dernier. À Dogondouchi, une commune de la région de Dosso, près de 2000 élèves du primaire n'ont toujours pas encore rejoint leur école depuis la rentrée scolaire du 1er octobre. Sollicité par l'inspecteur de Douchi 1, le chef de canton de l'Arewa a instruit les chefs de village de la commune d'appeler les parents à renvoyer leurs enfants à l'école. El Hadj Amadou Sabo au micro de Abdelaziz Dayouma.
Les élèves ont repris le chemin de l'école il y a quelques jours et voilà que l'inspecteur a adressé une correspondance à la chefferie de l'Arewa en soulignant qu'il y a environ 2000 enfants qui n'ont pas encore repris le cours. J'ai convoqué les chefs des villages pour leur signifier l'importance du savoir et surtout pour la zone de l'Arewa. Nous avons débattu le sujet en présence de l'inspecteur qui a mis à profit cette rencontre pour davantage sensibiliser les chefs coutumiers pour que d'ici deux jours que tous ces élèves reprennent le chemin de leur école. C'est un appel de l'ensemble des chefs coutumiers, des parents d'élèves et tous les acteurs œuvrant pour la même cause. Que chacun apporte son soutien à travers la sensibilisation pour que tous ces enfants regagnent leur établissement. Car si l'élève accumule un retard au cours, il sera sûrement en retard par rapport à ses collègues. Et plaise à Dieu, nous allons trouver une solution.
Je vous le disais dans les titres, à Maradi, le programme Girls First Found forme à compter de ce mercredi des filles en leadership. Elles sont 15 jeunes filles de l'université ainsi que des députés juniors qui deviendront des ambassadrices et des modèles afin de lutter contre le mariage des enfants et mieux promouvoir le maintien de la jeune fille à l'école. Écoutons à ce sujet Fanna Waziri, représentante du Girls First Found au micro de Mohamed Maman.
On a constaté au Niger qu'il y a un faible taux de scolarisation de jeunes filles. Par exemple, ici à Maradi, le village qu'on a choisi pour la sensibilisation, en 58 ans d'existence, aucune jeune fille n'a le brevet.
Et c'est quel village?
C'est le village de Ati de Koroto. Et c'est inquiétant de voir que dans un village, il y a des écoles, même des écoles privées, et il n'y a aucune jeune fille qui a le brevet. Pourtant, on prône l'indépendance de la jeune fille, le lead de la jeune fille, mais apparemment, les jeunes filles sont mariées au bas âge. Pourquoi être mariée au bas âge si on peut faire ce que les hommes peuvent faire? Si on peut aussi avoir les mêmes chances que les hommes d'aller à l'école. C'est pour ça qu'on a choisi notre cheval de bataille comme le maintien des jeunes filles à l'école, le mariage des enfants.
Pourquoi les universités?
Pour qu'elles soient ambassadrices. Elles portent notre parole ici à Maradi. Donc on peut un peu promouvoir l'indépendance de la jeune fille, la scolarisation de la jeune fille à travers elles. Elles peuvent être des modèles. Et ce n'est pas seulement les jeunes filles universitaires, il y a des jeunes filles députées.
Dans la ville de Gao, au Mali, au moins 10 radios offrent aux populations divers programmes d'information et de sensibilisation. Ces radios ont été à l'avant-garde du maintien de la cohésion sociale au moment de l'occupation djihadiste de 2012 qui aura duré 9 mois. Voici le constat de notre envoyé spécial à Gao, Alassane Kouzi Mahamadou, sur l'important rôle de la pluralité des radios dans cette cité légendaire du Nord Mali.
Depuis le début de la crise malienne entre 2012 et 2013 à Gao, n'eût été le rôle combien important qu'ont joué les radios locales, la situation aurait connu un dérapage impensable car le contexte sécuritaire fragile était propice à toutes sortes d'amalgames et d'intolérances. Ce rôle des radios locales a été d'appeler au patriotisme, à la paix et au mieux vivre ensemble entre les communautés de la région. Ousmane Abdoulaye Touré, directeur de la radio Nata de Gao.
Même les premières heures de l'occupation de Gao, que nous ne souhaitons plus encore revoir, les radios étaient seules sur le terrain. Les les radios ont joué les rôles de l'État, les rôles de la société civile, les rôles de tout le monde. Si vous voyez que l'hôpital a fonctionné au moment de l'occupation, si vous voyez que la jeunesse a pu résister, les marabouts ont pu donner de bons messages de paix et de cohésion, c'est parce que ces radios-là ont su jouer leur rôle.
Quelques citoyens rencontrés de la ville de Gao estiment que les radios jouent le rôle de médiateur entre les communautés.
Les radios jouent un rôle très important dans la communauté. Grâce à eux, les Touaregs et les Noirs ont pu se comprendre.
Ils ont joué le rôle de la communication, de savoir que cette ville nous appartient. Et la ville, elle ne peut pas rester dans la guerre. Elle ne peut pas rester aussi dans la prise de bâton par-ci, par-là. Les radios ont joué le rôle de médiateur entre les populations et même entre les populations et les groupes armés.
Afin d'être plus professionnels et mieux servir les communautés, certains responsables de Radio Agao espèrent des appuis financiers et techniques de l'État et des partenaires au développement. Alassane Kouzima Madou à Gao pour le studio Kalangou.
Retour ici au Niger, dans le département de Falmaï, région de Dosso, la libération des champs est fixée au 25 novembre. Pour la circonstance, des sensibilisations seront menées à propos de la descente des animaux afin de prévenir tout conflit entre agriculteurs et éleveurs, a laissé entendre le secrétaire général de la préfecture de Falmaï, Soumana Amadou, interrogé au téléphone par Adama Dawaki.
Nous avons mené des activités de sensibilisation des acteurs, notamment la communauté rurale, par rapport à la descente des animaux. Ils sont éduqués par rapport à la procédure en cas de dégâts. Du coup, on peut dire que les conflits entre communautés par rapport à cette descente-là relèvent de l'histoire. Tous les couloirs de passage et les aires de pâturage du département ont été répertoriés et balisés. Que ce soit du côté des éleveurs comme des agriculteurs, ces espaces sont vraiment respectés. Au niveau de tous ces espaces, des points d'eau ont été créés pour l'alimentation du bétail.
Est-ce que vous avez fixé la date de libération des champs?
Une date a été proposée, la date du 25 novembre, parce qu'il faudrait tenir d'abord la réunion de concertation au niveau des communes. Et les procès-verbaux seront remontés au niveau du département. Et maintenant, ils remontent au niveau de la région. C'est à ce niveau qu'une date définitive sera fixée.
En bref, des éléments de la police en poste à l'une des entrées d'Arlit ont découvert hier 131 kg de chanvre indien dans un camion transportant du soufre, selon les informations publiées sur la page Facebook d'Aïr Info. Ce camion en provenance d'Agadez aurait déjà été pris la semaine dernière avec 113 kg de drogue. Le conducteur, selon toujours Aïr Info, a été interpellé et déféré, mais le camion a continué sa route vers Arlit avec un nouveau chauffeur où un contrôle a révélé cette nouvelle cache de stupéfiants. Parlons santé dans ce journal. En cette période de l'installation de la saison froide, des affections du système respiratoire telles que le rhume et la pneumonie touchent de nombreuses personnes un peu partout au Niger. Un souci de santé qui nécessite une bonne prise en charge, mais surtout des conduites à suivre pour éviter toute complication, explique le médecin-chef du district sanitaire Niamey 3, Dr Habou Abdrahman.
D'abord, il y a les porteurs d'allergie, genre asthme ou bien les autres affections donc, du système respiratoire allergique. Ceux-là, vraiment, il faut qu'ils identifient ceux qui réveillent leur maladie. C'est-à-dire, si c'est lié à la poussière, il faut qu'ils évitent la poussière. Si c'est lié à la température, il faut qu'ils évitent donc des températures qui sont froides. Si c'est lié à un autre allergène de type végétal ou autre, donc, il faut qu'ils arrivent à éviter ce genre d'allergène-là. Généralement, il faut surtout éviter le contact ou bien l'exposition à la fraîcheur prolongée et d'exposition aussi à la poussière. Comment se protéger? Si c'est pour les enfants, les garder le plus longtemps à l'intérieur des maisons, surtout très tôt le matin et tard le soir. Et aussi porter des bonnets, des cagoules, si tant est qu'on ne peut pas les garder à l'intérieur des maisons. Et pour tout le monde, en fait, maintenant, c'est d'éviter vraiment de trop tarder la nuit dehors sous la fraîcheur. Il faut aussi se couvrir des vêtements qui peuvent réchauffer le corps, les bavettes aussi.
Relever le défi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, quelle contribution pour les médias? C'est le thème du symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030, CIMED, qui a débuté hier le 5 novembre 2019 à Niamey. Cette rencontre, qui est à sa troisième édition, regroupe des centaines d'acteurs nationaux et internationaux. Ousmane Dambaji, président du symposium, interrogé par Rukayatou Abdrahman.
Vous savez, de 2000 à 2015, nos pays ont réalisé ce qu'on appelle les OMD, Mais à l'échéance, aucun pays n'a atteint les cibles OMD, tout simplement parce que les médias n'ont pas été impliqués dans la mise en œuvre de projets programmes de développement. À travers le CIMED, nous voulons changer de paradigme, dire que les journalistes sont les véritables ambassadeurs. En dehors de notre rôle de collecte, traitement et diffusion de l'information, nous avons le rôle d'accompagnement des politiques publiques de développement. Les partenaires techniques et financiers et le pays doivent obligatoirement impliquer le média, pas en tant qu'observateur, mais en tant que partie prenante dans la mise en œuvre des projets programmes de développement. Il faut bannir la pauvreté, il faut mettre les citoyens dans de très bonnes conditions, que ce soit l'accès à l'eau, il faut soigner les Africains, et en ce sens nous avons un rôle important à jouer. Le défi, c'est le financement pour les ODD 2030. Chaque année dans le monde entier, il va falloir mobiliser 3 000 milliards de dollars, donc sur les 15 ans à venir, il va falloir mobiliser 45 000 milliards de dollars.
Améliorer le classement du Niger dans l'indice de développement humain IDH, c'est l'objectif d'une rencontre qu'organise cette semaine à Niamey l'Institut national des statistiques avec la participation de représentants des structures nationales et internationales. Madame Camille Halimoto Amadou, directrice des statistiques et des études démographiques et sociales à l'INEST, nous en dit plus au micro de Asmana China.
Depuis la création de cet indice, le Niger occupe régulièrement les dernières places. Il y a un dispositif institutionnel de suivi de l'IDH qui a été mis en place. Pour l'indice de développement humain, il y a deux choses, le rang et le niveau. Les deux choses sont importantes, mais la plus importante, c'est encore le niveau. Parce que vous pouvez être dernier et vous avez la moyenne, c'est moins grave que vous êtes dernier et vous n'avez pas la moyenne. L'idée, c'est d'amener le Niger à avoir un niveau de développement humain au moins moyen, que la population soit dans des bonnes conditions de vie. Et par ricochet, ça permettrait d'améliorer le rang de cet indice. À la fois, ça nous permet d'améliorer la prise en compte en temps réel de nos données, parce que souvent, s'il y a des retards dans les transmissions, les données ne sont pas actualisées. Donc, on veut comprendre davantage comment est-ce que ça doit se passer.
À présent, la partie magazine de ce journal, le Niger a fait un bond de 11 points dans le dernier rapport de Doing Business de la Banque mondiale publié en octobre. Le Niger est 132e sur 190 pays classés, alors qu'il était 143e en 2018, soit un progrès significatif du climat des affaires. Selon le président de l'Association des jeunes entrepreneurs du Niger, cette progression est le fruit d'une volonté politique du Niger et des efforts d'accompagnement des réformes engagées par la Banque mondiale. Seydou Souley Mahamadou au micro de Moussa Hassan.
Le Niger a connu une progression positive dans le doing business. En 2013, nous étions dans les 174e, de 174e à 132e. Aujourd'hui, c'est un progrès notable.
Qu'est-ce qui a changé pour mériter ce bon?
C'est d'abord, je pense, une volonté politique, parce que depuis Doing Business 2015, la question de la réforme du climat des affaires a été prise en main au niveau du président de la République. La deuxième chose, la Banque mondiale, qui incite les États à aller dans ce sens, a fait beaucoup d'efforts au Niger pour accompagner le gouvernement et les acteurs qui interviennent dans l'encadrement du secteur privé à pouvoir améliorer la prise des réformes et la mise en pratique de ces réformes-là. En dehors de ça, il faut quand même mettre dans la balance le fait que la question du secteur privé devient de plus en plus une question centrale dans le fonctionnement du système nigérien.
Quel serait l'avantage pour le Nigérien commun?
Par exemple, lorsqu'on améliore l'accès à l'énergie, le secteur privé en profite, mais convenez avec moi aussi, c'est les citoyens de leur ensemble qui vont en profiter. Et ces trois dernières années, on a vu quand même une certaine volonté d'améliorer l'accès à l'énergie. Où vous avez acheté par exemple un terrain, vous voulez le transférer au nom de votre entreprise. Si ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas très bon. Mais le fait d'avoir créé une diligence par rapport à ces genres de transferts, les citoyens bénéficient aussi. Il n'y a pas si longtemps, c'était très compliqué de créer une entreprise au Niger. Grâce aux réformes Doing Business, depuis 3-4 ans, on a pu créer ce qu'on appelle un guichet unique à travers la maison de l'entreprise, où vous rentrez avec votre idée d'entreprise, vous sortez avec l'entreprise créée. Et ça, c'est quelque chose de démocratique. Tous les citoyens qui ont envie de formaliser leur entreprise ont à leur disposition ce mécanisme-là. Lorsque l'économie se porte bien, lorsque le secteur privé se porte bien, c'est quelque chose qui peut profiter à l'ensemble des citoyens.
C'est un progrès, effectivement, mais malgré cela, il y a quelques défis aussi à relever.
C'est un fait évident, le climat des affaires s'améliore. Néanmoins, la pratique des affaires reste encore difficile. Vous savez, même quand on fait des réformes pour améliorer un domaine, il y a quelque chose aussi qui ne suit pas tout de suite. Ce sont les pratiques des acteurs, ce sont les interactions et les dimensions culturelles. Par exemple, la question de l'accès au marché public, au marché tout simplement. Il peut y avoir des pratiques de corruption, des lenteurs administratives, des contraintes bureaucratiques qui peut faire en sorte que c'est compliqué pour les grandes ou les petites entreprises, mais surtout pour les petites entreprises, où par exemple, vous exécutez des marchés, mais vous n'êtes pas payé dans les délais requis. C'est des goulots d'étranglement qui ne sont pas forcément pris en compte dans le doing business.
Fin de ce journal, à retrouver tout de suite à une rediffusion du forum présenté par Alassane Kouzi Mahamadou.